Comment vas-tu, mon cher ami David Gilbert?
Hop, shape, mon Greg. Comment ça va de ton côté? Comment ça va, Oli?
Ben, moi, ça va super bien. Oli, t'es en train de s'endormir.
Non, moi, ça va vraiment bien. Trey Hendrickson s'est présenté au camp des Bengals. Shamar Stewart a signé. Je pense que les Bengals vont gagner le nord de l'américaine.
Wow! Si t'étais fatigué, là, ça paraît pas, mon cher.
T'as-tu dit que les Bengals allaient gagner l'américaine?
Oui, absolument. On a retrouvé notre défense. On a nos deux chasseurs de corps.
J'ai le goût de quitter le studio.
Bon, ben, écoute, quand ça va arriver, je vais pouvoir célébrer dans ta face.
Ça arrivera pas. Ça arrivera
J'adore.
Pas. OK, aujourd'hui, on fait la AFC, mon cher David. Puis, ça commence déjà à brasser. Par quelle division tu veux commencer?
Écoute, on va commencer ça relax, on va commencer ça avec l'Est, celle qui est la plus proche de nous, avec les Bills, avec les Pats, avec les Jets. Genre Miami aussi, mais Miami quand même assez loin, mais il y a beaucoup de Québécois qui vont là, puis il y a beaucoup de fans des Dolphins, fait que je pense que c'est la meilleure conférence pour débuter.
Ben oui, vas-y. Ceux que moi je vois pour se rendre jusqu'au bout, jusqu'au Super Bowl, au gros match, les Buffalo Bills, avec la meilleure gang de partisans qu'il n'y a pas, la Bills Mafia.
Oh oui. Écoute, c'est pas compliqué, les Bills cette année, c'est Super Bowl ou c'est un échec retentissant. Puis le genre d'échec qui va faire perdre sa job à l'entraîneur-chef, qui va faire perdre sa job à bien du monde, parce que c'est une équipe qui est bâtie autour de Josh Allen, mais on se demande toujours est-ce qu'on lui donne les bonnes pièces pour y arriver. Il est le MVP en titre de la Ligue. On lui donne comme receveur cette année Joshua Palmer de plus, qui est un Canadien, tant mieux. En défensive, on ajoute Joey Bosa, on a rajouté aussi les choix de repêchage. Mais c'est le problème avec les Bills, depuis quelques années, c'est les blessures en défensive. Une défensive qui est souvent décimée, et puis ça fait mal. Ça reste quand même que ça va être, l'équipe à battre dans cette division-là. J'ai l'impression qu'ils vont la remporter encore haut la main. Genre de division qu'on pourrait gagner à semaine 14 ou à semaine 13, puis après ça, se dire « OK, parfait, on est déjà là ». Un peu comme les Patriots faisaient dans les années début des années 2000, là, ils jouent dans une conférence, dans une division qui domine. Maintenant, c'est la conférence, tu sais, avec les Chiefs, avec, on va le dire, là, t'es Ravens, on va dire les Texans de Houston, d'autres équipes aussi.
Les Bengals.
On va se battre pour la... Mais ouais, c'est ça, fait que les Bills vont se battre pour la conférence. C'est ça qui est important pour eux et surtout, qu'est-ce qui va se passer en janvier et en février.
Ouais, et là, dans le restant de la division, on dirait que c'est toujours un fouillis dans ces trois équipes-là depuis quelques saisons.
Ouais, 100%. Miami, je pense que c'est le champ du cygne pour Mike McDaniel. Si McDaniel réussit à prendre cette équipe-là et en faire quelque chose, sa job est sécure. Si on fait pas les séries éliminatoires, c'est fini pour lui. Tyreek Hill fait plus jaser à l'extérieur que sur le terrain. L'an dernier, il a connu sa pire année depuis, je pense que depuis qu'il est dans la NFL. Est-ce que Tua va rester en santé pendant 17 matchs? On base la défensive sur des joueurs blessés depuis des années, Bradley Chubb et Jalen Phillips. Puis on ajoute Micah Fitzpatrick, mon père, Javon Holland puis Ramsey dans la tertiaire. Miami, pour moi, c'est une équipe qui ne fera pas les séries éliminatoires, malheureusement pour les fans. Pour les Pats, beaucoup d'attentes parce que, crème, on a vu l'an passé Drake May qui a montré des super belles choses. On a dépensé comme des malades en ajoutant Stephen Diggs, Garrett Bradbury, le centre des Vikings qui s'amène, Morgan Moses pour le protéger aussi, Milton Williams, des champions en titre des Eagles qui s'amène. Est-ce que ce sera assez? Pour moi, non. Mais la venue aussi d'un certain Mike Vrabel avec son... non seulement son aura, mais sa façon de coacher qui est un peu plus dure. J'ai l'impression que les Patriots vont être une équipe qui va être dure à battre cette année. Je les vois aux portes des séries, au deuxième rang de la division. Puis finalement, les Jets, nouvel entraîneur-chef, mon ancien coordonnateur défensif Aaron Glenn arrive là. On met Justin Fields sur le terrain maintenant pour prendre les rênes. La saga Aaron Rodgers est derrière eux autres. C'est encore une équipe avec beaucoup de talent, mais je pense encore une fois que c'est une équipe qui va avoir de la misère. Pour moi, là, ça va être Bills, Patriots, Jets et Miami, peut-être autour de 5-6 victoires, mais ça va être une division qui va être plus compétitive que prévu.
Je trouve ça bien intéressant, ces prédictions-là. Miami, dernier. Hein?
Ouf. Ben, ouais.
Maintenant, AFC South.
South.
Texans, Colts, Jaguars, Titans. Bon, là, on s'entend que les Texans vont gagner cette division-là, c'est même pas proche.
Oui. Hey, c'est fou, hein, quand tu regardes la pire fiche de la NFL les trois dernières saisons, ça se passe dans le sud. AFC South, NFC South, AFC South. C'est pas compliqué, c'est toujours la pire conférence, la pire division, le sud. Ça va être encore le cas du côté de l'américaine. Oui, on a Houston. La blessure à Joe Mixon m'inquiète beaucoup, par exemple. Ce gars-là, quand il est pas là, c'est pas la même attaque. On a remixé un peu la ligne offensive parce que l'an dernier, c'était toxique, le climat, paraît-il. Ça marchait pas super bien. Fait que Laremy Tunsil, Kenyon Green sont sortis, puis on a amené du nouveau monde. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que CJ Stroud va être capable de rebondir d'une deuxième année qui a été très difficile? C'est à voir, mais surtout, moi, ce que j'aime, c'est la défensive. Elle est coriace, elle est solide. Ça va être une défensive top 3 dans la ligue, sans aucun doute. En arrière de ça, Titans, ben, c'est une équipe qui est encore en reconstruction. Je les vois encore finir dernier de la division. Will Levis a autant aidé les équipes adverses que sa propre équipe l'an dernier. C'est celui qui a donné le plus de touchés par des interceptions ou des fumbles à l'équipe adverse l'an dernier. C'est fou. Là, on le remplace par Cam Ward, le choix numéro 1. Greg, tu te rappelles-tu d'un choix au repêchage numéro 1 qui passe au-dessus, en dessous du radar, comme le fait Cam Ward cette année? On n'en parle pas du tout.
Non, je m'en rappelle pas. Je
pour
sais
un
pas
corps
si
arrière, c'est, non, vous avez raison. Pour un corps zéro. Arrière, il n'y a absolument aucun buzz, aucun hype sur ce gars-là. Puis il part vraiment, vraiment de loin avec les Titans. Ce sera pas facile.
Oh, et lui-même le dit aujourd'hui, il est allé déclarer dans les médias, ouais, notre offensive est vraiment médium moyenne. Tu sais, c'est pas fort fort. Fait que là, même lui met la barre basse. Mais pour moi, Cam Ward, c'est un gars qui a fait face à beaucoup d'adversité pour se rendre jusque-là. Je pense que c'est un gars qui est capable d'en prendre puis qui va élever le niveau de jeu. Mais les Titans seront derniers. Juste devant eux, il y aura les Colts. Les Colts, bon, décèdent leur propriétaire pendant la saison morte, qui était une figure plus grande que nature. Mais moi, c'est le poste de corps arrière. Là. Anthony Richardson, on voit sa photo derrière moi si vous êtes sur YouTube, parce qu'il était corps arrière de mes Gators de la Floride. Mais Richardson, dans la NFL, à date, ça n'a clairement pas bien fonctionné. Puis c'est qui qu'on est allé chercher pour le mettre un peu en compétition? Daniel Jones.
Oh yeah.
Sérieusement. Sérieusement, là. Ouais. Dis, c'est Daniel Jones qui va lui chauffer les fesses. Puis si on a besoin d'un gars pour venir sauver la franchise, c'est lui qu'on prend. Et boy, boy. Pour ça, moi, là, ça...
Quand une organisation signe Daniel Jones comme carrière, là, c'est comme là, si...
Ah, oh, vous êtes là,
quand,
méchant.
Tu sais, quand t'es jeune, puis t'as hâte d'aller dans tes parties de famille pour recevoir des cadeaux. Là.
Ouais.
Puis tes grands-parents, puis tes oncles, puis tes tantes, ils te donnent comme des paires de bas, puis des boxers, puis des chandails. Là.
Vous êtes méchant. Daniel Jones a quand même fait les séries avec les Giants. Il est pas bon, mais... Je pense qu'il est quand même meilleur qu'Anthony Richardson,
attends,
sincèrement.
Je vais juste te poser une question. C'était qui le porteur de ballon déjà? Rappelle-moi, écoute, je m'en suis.
J'ai un gros blanc, moi, avec.
Saquon Barkley, man. C'est à cause de ça qu'ils ont
je
fait les éliminatoires.
Je comprends, mais il faut quand même le faire. Là. Il a amené les Giants en série pour la première fois depuis belle lurette, en tout cas.
Bon, on va acheter un jersey de Daniel Jones à Noël.
Non, c'est correct.
Lui,
c'est correct.
Il s'est rendu le plus grand défenseur. Écoute, les Jaguars, je pense qu'il y a une seule raison de regarder ça, puis c'est justement celui qui retient toute l'attention depuis le repêchage.
Travis Hunter, puis d'ailleurs, il a déclaré cette semaine qu'il voulait être nommé Unicorn. Ça va être son nouveau surnom. Hey, juste de même, Greg, je sais que t'es en âge, t'es plus proche de moi, là, mais Oli, t'es né en quelle année?
2001,
OK, quand même. T'as 10 ans de plus, 10 ans de moins plutôt que le nouveau DG des Jags. Il est né en 91. Quel 91, sérieusement. Là,
il a 34 ans.
Ouais, 34 ans, c'est quand même assez jeune. Hein? On l'a vu d'ailleurs, il a 34 ans, mais il a de l'air d'en avoir 24. Je pense que t'as de l'air plus vieux que lui, Oli, sérieusement.
Ça te dit-tu comment Oli est jeune?
Ouais, je le sais. Je le sais, puis déjà, a de l'air plus jeune qu'Oli. Puis tu rentres Cohen, l'entraîneur-chef. Je sais pas si vous avez déjà entendu son Duval qui a fait sa conférence de presse. Pathétique. Duval. Pour ceux qui ne le savent pas, les Jaguars ont un cri de ralliement qui est Duval, qui est le comté où joue l'équipe. Et tout le monde le hurle. C'est Duval! Non, lui et Cohen, il l'avait pas.
C'est à peu près comme quand Oli dit le peuple.
Ouais, c'est ça que j'allais dire.
Ouais, puis j'ai hâte de voir Cohen, par exemple. C'est lui qui a revitalisé un petit peu la carrière de Baker Mayfield. Est-ce qu'il va être capable de faire la même chose avec Trevor Lawrence? En tout cas, il y a Brian Thomas Jr. Si on l'utilise bien, ça pourrait être un receveur top 5 statistiquement dans la Ligue cette année.
L'ouest de l'AFC, maintenant. On fait ça? Non, on fait ça tout de suite.
Ben oui. Si on va closer ça, le Nord, j'ai l'impression qu'on va en avoir pour à peu près 45 minutes.
Arnaud Gascon-Nadon, qui s'en vient dans 15 minutes, nous disait « Les gars, ma prédiction, les Broncos vont prendre l'est, l'ouest, c'est-à-dire de l'AFC. » T'en penses quoi de ça?
J'ai vois chauffer les Chiefs, mais moi, les Chiefs, pour vrai, là, on va en parler dans quelques minutes, j'ai vois encore au sommet de cette division-là, puis je vous expliquerai pourquoi. Mais les Broncos, j'y vois deuxième parce qu'on avait une très bonne défensive et j'ai adoré ce qu'on a fait. On a ajouté à cette défensive-là. On est allé chercher Dre Greenlaw et Ufanga des 49ers. On ajoute J.D. Barron, qui était probablement le meilleur demi-coin, le deuxième meilleur demi-coin du repêchage, pour aller épauler Patrick Surtain de second. Bo Nix, ben, il va lui falloir trouver un receveur numéro 2 après Cortland Sutton. Et là, pour les porteurs de ballon, on a R.J. Harvey qu'on est allé sélectionner, J.K. Dobbins qui a connu une super saison avec les Chargers l'an dernier. Je pense que ça pourrait être une équipe justement qui joue du gros football loin dans la saison puis même lors des éliminatoires. J'y vois deuxième dans la division. Parce que les Chiefs sont encore là, puis les Chiefs, là, rien de il n'y a jamais rien de mieux qu'une bonne claque d'en face pour te refocusser. Puis ils l'ont reçu au Super Bowl. Hey, au Super Bowl, alors que tout le monde les regardait, les Eagles les ont humiliés. Et là, ben, on a décidé d'aller chercher Josh Simmons, qui pourrait être le vol du prochain du dernier repêchage. Il y avait une blessure, ça l'a fait glisser, mais c'est un gars qui était top 10. Et déjà au camp, on dit que le gars est excellent. On vient peut-être de régler un problème sur la ligne depuis longtemps. On a encore Patrick Mahomes. On va revoir Rashee Rice cette année. On va voir Hollywood Brown en santé toute la saison. Les porteurs de ballon aussi, là, on se rappelle la grosse blessure de Isaiah Pacheco en début de saison aussi. Oui, Travis Kelce ralentit un peu, mais il fait encore du bon travail et la défensive va toujours être solide. Pour moi, les Chiefs, on est en train de dormir sur eux autres. Puis quand on dort sur les Chiefs, d'habitude, c'est là qu'ils sortent des grosses saisons. Fait que je vois les Chiefs premiers, mais se faire chauffer quand même par les Broncos.
Parle-nous des Chargers de... Ouais! Bob de la Chenet, notamment.
Ouais. Écoute, Arba a réussi à retourner le navire assez rapidement, hein, mais on a encore eu une sortie de séries éliminatoires difficiles. Justin Herbert, là, je pense qu'il va falloir qu'il engage des psychologues parce que après celle qu'il avait connue, là, je sais pas si vous vous rappelez, contre les Jaguars de Jacksonville, il menait, je pense, c'était par 24, puis les Jaguars sont revenus puis sont allés les battre. Depuis ce temps-là, Justin Herbert a très bon en saison régulière, là, mais en série, on dirait qu'il n'y a rien qui clique, il y a quelque chose qui se passe. C'est inquiétant. Ce qu'il faut savoir aussi, bon, on a Rashawn Slater, on vient de le signer à gros prix. On est allé chercher Najee Harris comme porteur de ballon. Les receveurs, c'est très bof à part probablement Lan McConkie. Mais j'ai hâte de voir Benjamin Saint-Just dans son nouvel uniforme. À date, il est classé comme quelqu'un qui est substitut, mais fort probablement qu'il va avoir des chances de se faire valoir parce que Arba était son entraîneur-chef quand il était avec Michigan il y a plusieurs années de ça. Fait que les Chargers, pour moi, sont troisième. Mais ça va être une division qui va être très compétitive avec les Raiders qui vont fermer la marche. Nouvel entraîneur, nouveau corps arrière, l'intuable Pete Carroll qui a 73 ans se retrouve là avec son ancien corps arrière Geno Smith. On est allé repêcher Ashton Jeanty d'ailleurs. Vous devez absolument le prendre dans vos fantasy si vous avez l'occasion parce que derrière lui, il y a Raheem Mostert et Sincere McCormick. En gros, c'est lui qui va toucher le ballon le plus souvent. Puis on a, ben, à l'attaque, il y a Brock Bowers.
Sincere McCormick. Fait que t'es en train de me dire qu'il y a Ashton Jeanty, puis il y a Sincere.
Ouais, et voilà. Fait que on s'entend qu'Ashton va toucher très souvent au ballon.
C'est vraiment son nom.
Ça a l'air que Ashton Jeanty, lui, il est pas méchant.
Ah non, il est excellent même. Il a failli battre des records d'un certain Barry Sanders.
T'as pas compris, hein?
Oui. La poutine de Québec, ça va.
Non! Ashton Jeanty. Il est pas méchant.
Ouais. Moi, j'y allais à Ashton avec la poutine à Québec.
Non, c'est bon. On s'est pas compris, mais on a ri. C'est ça qui est important.
Et voilà. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, dernière chose sur les Raiders, on a sacré dehors Christian Wilkins. Drôle de situation. On l'a mis dehors parce qu'on disait qu'il avait mal géré sa blessure pendant la saison morte. Semblerait-il qu'il aurait donné un bec sur le front d'un coéquipier qui l'a mal pris pendant le début du camp d'entraînement. C'est weird la situation. Puis, ben, ça fait très Raiders. Grosse polémique alors que la saison commence.
OK, David, du podcast Premier les buts. Il nous manque une division ensemble à regarder. C'est le nord de l'AFC, puis là, ça va revoler.
Écoute, je vais commencer avec les deux équipes qui vous touchent pas, là, les Browns puis les Steelers. Puis après ça, j'ai l'impression que je pourrais carrément me taire puis vous écouter, juste vous ostiner, ça serait écœurant comme affaire.
T'es-tu vraiment obligé de parler de Cleveland?
Ben, je vais en parler un peu parce que, bon, on a Kenny Pickett qui est déjà blessé au camp d'entraînement. Qui va être le carrière partant? Dylan Gabriel, Shedeur Sanders, l'intuable Joe Flacco. On va voir, là. Mais avec Deshaun Watson qui est derrière eux, ben, financièrement, là, pas, puis dans, il est pas derrière eux, mais dans l'équipe, il est plus là. C'est sûr qu'on va mieux respirer chez les entraîneurs, chez les joueurs. Bon, est-ce qu'on va retrouver la magie d'il y a deux ans? J'irai pas jusque-là. Mais Myles Garrett est de retour. Il est pas mal plus riche, d'ailleurs. On vient de repêcher Mason Graham pour lui donner un bon coup de main dans le milieu de la ligne. Ça reste une défensive avec beaucoup de talent. Une attaque qui, crime, va peut-être piétiner par moment. Mais c'est une équipe qui va, comme d'habitude, jouer fort, qui va déranger beaucoup. C'est une équipe, je pense, qu'on ne doit pas prendre à la légère, même s'il y a de fortes chances que, pour moi, ça soit l'équipe qui finisse dernière ou avant-dernière de la division. Ça sera une équipe qui va vendre chèrement sa peau à chaque semaine. Les Steelers. Ouais, moi, la grande question que je veux savoir, c'est on fait quoi là, avec Pittsburgh? T'sais, on est rendu avec Aaron Rodgers au poste de corps, le sauveur, toi, Crème. Aujourd'hui, au Pat McAfee Show, là, t'entendais les fans en arrière comme qui criaient « Ramène-nous le septième », comme le septième titre de Super Bowl. Je sais même, man, on parle de Aaron Rodgers, 41 ans. On va se calmer. Là, c'est
mais
pas
il y a DK Metcalf avec lui.
Ben oui, mais DK Metcalf, j'aime bien, là, mais qui d'autre? C'est une autre équipe qu'après DK Metcalf, ils n'ont plus grand-chose. Puis quand je dis plus grand-chose, ils ont Pat Freiermuth, leur tight end. Puis c'est à peu près ça. Là, ils n'ont pas grand receveur d'intérêt. En plus, on va échanger Minka Fitzpatrick pour aller chercher Jalen Ramsey.
J'ai pas compris celle-là.
J'ai pas vraiment aimé cette signature, cet échange-là non plus pour les Steelers. Le seul point positif, c'est qu'on est allé signer TJ Watt. On lui a donné l'argent qu'il méritait parce que ce gars-là, il a non seulement le cœur de la défensive, mais le cœur de l'équipe. Mais j'ai l'impression qu'on va se retrouver encore une fois avec une attaque qui va piétiner. On a comme porteur de ballon Warren et le nouveau venu Caleb Johnson qui vient d'Iowa, qui est pas mauvais non plus. Mais c'est pas une attaque, moi je pense qu'on... Disons que je me lèverai pas tôt pour aller ouvrir la télévision et aller regarder les matchs des Steelers. Je suis pas sûr que ça va être super excitant. Est-ce que Mike Tomlin va être encore capable une nouvelle fois d'avoir une équipe à 500 comme je pense les 11 ou 12 dernières années? Peut-être. Mais pour moi, les Steelers vont se battre pour la queue de la division. Ils vont soit finir dernier ou avant-dernier. Pour moi, ça, c'est clair.
Écoute, là, parle-moi des ceux qui vont avoir une attaque dévastatrice, mais une défense dévastée.
Aïe, aïe, aïe. OK, ben, je pense que tu parles des Bengals, là.
Des Ravens, c'est sûr que tu me niaises. On a une défense revampée.
Alors, écoute, on va parler des Bengals. Pour moi, c'est une équipe présentement qui a beaucoup trop de hype sur eux. Puis ça, c'est tout basé sur leur fin de saison qui était extraordinaire, on va se le dire. Mm-hmm. Mais on oublie une défensive qui a été atroce l'an dernier, là. Tu sais, pour que Joe Burrow soit capable de mettre plus de 30 points sur l'adversaire pendant pratiquement toutes les semaines et qu'on perde semaine après semaine ces matchs-là, ça ne faisait aucun sens. On change le coordonnateur défensif comme si c'était lui le problème. Hein? Lou Anarumo est parti, on rentre Al Golden, que j'adore, il était avec Notre-Dame puis il a fait un super travail. Mais il y a fort à faire. Là. Hendrickson va fort probablement revenir, j'espère qu'on va le payer. On a oui signé Shamar Stewart enfin après une espèce encore une fois de controverse qui n'a pas de bon sens. Mais ça reste quand même à peu près les mêmes noms autour d'eux. Là. Puis Hendrickson, d'après moi, il va falloir qu'il fasse une saison comme l'an dernier, là, un 17,5 sacs du corps pour avoir une défensive qui est aussi solide. Je suis pas sûr qu'il va encore avoir ça dans le corps. Mais bon, deux choses. Un, Joe Burrow va rester le meilleur corps arrière de la NFL. Pour moi, c'est lui le meilleur corps arrière. Avec Josh Allen, c'est un A, un B, puis juste en arrière, peut-être un C, t'as Pat Mahomes, mais Joe Burrow est hallucinant, c'est tout ce qu'il est capable de faire. Il y a des super armes, puis dans votre fantasy, ben pourquoi pas repêcher un Canadien en Chase Brown, leur porteur de ballon. On vient de remercier aujourd'hui Zach Moss, qui était son second. Fait qu'en gros, c'est la job de Chase Brown, et il va toucher vraiment souvent au ballon, il va être très occupé, il va être très payant en fantasy cette année.
Maintenant. On n'a même pas besoin de parler des Ravens parce qu'on sait qu'ils vont être une des plus grandes forces de l'AFC. Tu peux peut-être faire une 30 secondes sur les Ravens de Baltimore.
Ben écoute, on a à peu près la même attaque qui revient. On a changé, dans le fond, Morgan Moses pour Emory Jones qu'on est allé repêcher. Par contre, j'adore deux choses. On est allé chercher Jerry Alexander, le demi de coin des
Packers.
Qui
est tout le temps blessé.
Souvent blessé, mais qui va amener de la profondeur à cette tertiaire-là. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est une tertiaire qui, à la base, est souvent blessée. T'sais, on pense à Humphrey et compagnie. Fait qu'on a trois joueurs qui sont propres à se blesser, mais là, ils sont trois bons. Fait qu'ils vont pouvoir se passer le bâton un peu. Puis j'adore au repêchage Malachi Starks de Georgia qui va venir donner un coup de main à, selon moi, le meilleur joueur à sa position dans la NFL, Hamilton. Qui est vraiment hallucinant comme demi de sûreté.
Le meilleur demi de sûreté de la ligue.
Oui, de rien de moins.
Kyle Hamilton. OK, donc tu me dis que la division s'en va aux Ravens facile.
Mais ça va être serré, hein, David, parce que je tiens à rappeler pour ceux qui sont peut-être pas au courant, là, l'an passé, les Bengals ont terminé malgré tout avec une fiche de 9-8. 7 défaites étaient dans des matchs à une possession. Fait que.
Tu parles de des matchs qui ont fini genre 39-36?
Ouais, c'est ce que j'appelle la malchance, moi.
Ouais,
malchance, de quoi tu parles? OK, tu voulais rendre un très court hommage à Pierre Foglia, David, parce qu'il t'a marqué toi aussi.
Ben oui, écoute, quand j'étais petit cul, chez nous, on recevait la presse papier. Puis bien sûr, en tant que petit cul, ben, je prenais toujours le cahier des sports, je le mettais devant moi, puis je commençais par la fin. C'est-à-dire, je commençais avec les statistiques, je commençais avec les classements, je connaissais les stats de tous les joueurs du Canadien. Puis à un moment donné... je me suis intéressé à la première page et c'était Pierre Foglia. Et c'est Foglia qui m'a intéressé à lire le cahier des sports de la première à la dernière page et non l'inverse. En particulier à cause de ses chroniques olympiques et surtout du Tour de France. Moi étant un grand fan de cyclisme, cette année je me demandais comment il aurait couvert ça avec Tadej Pogacar. Ça aurait été probablement super intéressant, comme d'habitude, parler des tartes de ses Mirabelles. Comme tu disais, de fromage avec Richard Labbé et compagnie. Mais c'est aussi un gars qui, après ça, m'a ouvert les yeux sur le monde parce que quand tu le lisais au Tour de France, moi, mes vacances commençaient avec Foglia puis le Tour de France quand je commençais à lire ses chroniques. Puis quand le Tour de France se terminait, ben, c'était comme un deuil qu'il fallait faire de ça. Mais Foglia, lui, continuait puis il continuait à écrire des articles sur l'actualité. Fait que c'est à cause de ça que j'ai commencé à lire l'actualité, à m'ouvrir sur le monde puis à comprendre un peu les enjeux de société qu'il y avait. Fait que Foglia, ça n'a pas juste été pour moi un chroniqueur de sport, ça a été un gars qui a été capable de me prendre petit cul, début d'adolescence, qui n'aimait pas vraiment lire, à lire non seulement des textes qui étaient extrêmement bien écrits, mais surtout à voir qu'est-ce qui se passait autour de moi, puis à comprendre un peu plus le monde autour du Québec, puis qu'est-ce qui s'y passait. Fait qu'un chapeau à Pierre Foglia qui a été pour moi une lecture passionnante et surtout, ça a il est inimitable. Là. C'est un deuil à faire parce que depuis 10 ans, le nombre de fois, je me suis dit, j'aurais aimé ça lire le point de vue de Foglia sur quelque chose.
Absolument.
Ben, malheureusement, ça n'arrivera plus.
Merci pour ce vibrant hommage, David. Puis on se reparle très bientôt, mon ami. Toujours apprécié. C'est toujours un plaisir de faire de la radio avec toi.
Pareillement. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Salut. À toi aussi.